écouter, télécharger et partager toutes les émissions du OFF sur www.osmose-radio.fr.
Osmose Radio.
Osmose.
La web radio du OFF.
Merci d'être avec nous en permanence, 24 heures sur 24, sur la web radio du OFF, pour écouter toutes les rencontres que nous faisons cette année autour du festival OFF, comme chaque année. Je crois que c'est la sixième même cette année. C'est pour ça qu'on nous appelle la web radio du OFF. Parmi ces rencontres, on a déjà dépassé la centaine, même plus, hein, bien plus cette année. Je vous propose de découvrir quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Violaine Arsac. Bonjour Violaine.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais très bien.
C'est la première fois qu'on vous trouve en osmose, qu'on vous découvre en osmose.
Exactement.
Vous étiez déjà venue au festival avant ?
Oui, tout à fait. Je suis déjà venue avec les deux premières créations de la compagnie, Bien au-dessus du silence en 2011 et 2012, et Tant qu'il y a les mains des hommes en 2014 et 2015. Les deux au Théâtre de la Luna.
Et là, vous venez encore au Théâtre de la Luna, vous êtes fidèle.
Tout à fait.
Avec Les Passagers de l'Aube. Alors là, c'est une pièce où entre en jeu de la chorégraphie également.
Oui.
C'est un mix.
Alors, un petit peu de chorégraphie, comme dans les deux précédents spectacles de la compagnie. Moi, j'aime beaucoup les mises en scène physiques, les mises en scène où il n'y a pas que des mots. Je pense que les corps aident à exprimer des émotions sur certaines situations autant que les mots. Donc, on a effectivement quelques petits moments chorégraphiés dans ce spectacle, grâce à Olivier Bénard, qui est le chorégraphe qui m'accompagne depuis le précédent spectacle et sur celui-ci également.
Alors, Les Passagers de l'Aube, c'est une pièce pour combien de comédiens ?
Quatre comédiens.
Quatre comédiens.
Aïda Asgharzadeh, Julie Cavana, Charles Lelor et Mathieu Ornus.
D'accord. Et sur scène, on aborde quand même un thème qui n'est pas fréquent dans le théâtre.
Non.
On le trouve beaucoup dans les bouquins, sur YouTube, dans pas mal de reportages et tout ça. Mais au théâtre, très très rarement, il s'agit des EMI, ou expériences de mort imminente, ou encore en anglais NDE.
Voilà, exactement. Je pense que c'est un sujet qui n'avait jamais été traité au théâtre, ou en tout cas... Je n'en ai pas entendu parler.
J'en ai pas souvenir non plus. Ouais. Hein. C'est vrai que
Et ça me semblait intéressant. Après, ce n'est pas un spectacle que sur les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente étaient un peu la porte d'entrée que j'ai eu envie d'utiliser pour faire se confronter, on va dire, un point de vue extrêmement scientifique et rationnel avec des choses qui existent dans notre société et qui le sont peut-être beaucoup moins rationnelles, en tout cas, de notre point de vue à nous.
Voilà, alors d'un côté scientifique, on n'a pas les preuves nécessaires, et de l'autre côté humain, on a énormément de témoignages.
Voilà.
Qui se recoupent, qui se ressemblent énormément, donc c'est vrai que la question reste en suspens. Comment vous avez traité ça d'un point de vue théâtral ?
Alors, ce qui m'a intéressé, c'était d'abord d'écrire une histoire. Donc, on est d'abord dans une histoire et des rapports de personnages, c'est-à-dire qu'on a Noé, qui est un jeune neurochirurgien brillant, qui a son avenir tout tracé, qui a une femme qu'il aime, qui a tout pour lui, qui à un moment donné va être confronté à des choses que la science ne peut pas expliquer ou que ses connaissances médicales à lui ne peuvent pas expliquer, en l'occurrence des cas d'expérience de mort imminente, et donc il va vouloir comprendre. Et plus il va vouloir comprendre, et moins il va comprendre, en fait, et plus ça va faire exploser son monde et l'entraîner dans une fuite en avant, où il va prendre le risque de tout perdre ou de tout gagner. Après, c'est une question de point de vue personnel. Donc ça, c'est un peu le point de départ de l'histoire. Et on s'attache au... Enfin, ce que j'espère, c'est qu'on s'attache aux personnages, d'abord à leurs histoires, à l'histoire d'amour, parce que c'est aussi une grande histoire d'amour entre Noé et sa compagne Alix, qui elle est photographe, et avec eux, on embarque à la découverte de phénomènes, comme vous dites, qui sont très répandus, puisqu'on a quand même des millions de personnes dans le monde qui ont fait des expériences de mort imminente. On ne parle pas de 10 cas au fin fond d'un petit village de France. On a des millions à l'échelle mondiale.
Ouais, je crois qu'aux États-Unis seulement, on dénombre plus de 13 millions et c'était il y a 7 ou 8 ans. Donc depuis, encore déjà quelques-uns en plus.
Voilà.
En France, il y en a pas mal, mais de plus en plus de scientifiques s'y intéressent. Bon, on a commencé avec monsieur Raymond Moody.
Oui,
je sais plus dans quelles années, les années 70, quelque
oui,
chose comme ça.
Oui, en tout cas, quels que soient les pays, c'est effectivement depuis les années 70 et encore plus depuis les années 80 que c'est étudié. Mais c'est un phénomène qui est étudié effectivement d'abord aux États-Unis, au Canada, puis en France, en Belgique, aux Pays-Bas et un peu partout dans le monde. Donc il y a de nombreux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de nombreux scientifiques qui s'intéressent à ces événements. Il y a des neurochirurgiens, il y a des chercheurs en biologie moléculaire, il y a des personnes qui travaillent en anesthésie ou en réanimation. Donc, qui cherchent des explications qu'à ce jour, la science ne peut pas donner.
Oui. En plus, ça pose pas mal de questionnements et ça fait avancer même la science, puisque la question aujourd'hui, après tant d'années d'enquête, de témoignages, on en est en train de se demander au niveau médical, médecine, scientifique, est-ce que la conscience est bien dans le corps ?
Oui, alors...
Ça vient directement de ces expériences-là, cette question.
Alors, vous êtes un petit peu en train de dévoiler le vrai sujet de la pièce, puisque, en fait, c'était pour arriver à ce sujet-là que j'ai pris la porte des expériences de mort imminente. Mais c'est vrai que la physique quantique est en train de poser des vraies questions quant à la localisation de la conscience qui, peut-être, n'est pas dans le cerveau. Et si la conscience n'est pas dans le cerveau, si la conscience n'est pas dans le corps, ça pose une vraie question sur notre conception occidentale de la vie et de la mort.
C'est une révolution.
Oui.
Au niveau scientifique. Ouais, donc on aborde... Ah oui, vous avez suivi donc cette logique...
Tout à fait.
Qu'ont suivi pas mal de scientifiques au fil de ces dernières années.
Ouais.
Avec cette question actuelle, où se trouve la conscience humaine.
Oui, tout
d'accord.
À fait.
Alors sur la scène, quatre comédiens.
Oui.
Comment ça se déroule? On est dans un bloc opératoire, quelqu'un est en train de mourir.
Alors je ne vais pas tout vous dire, mais on a une partie qui se passe à l'hôpital. On a une partie, effectivement, on a un décor qui est modulable. J'ai travaillé avec Caroline Mexme beaucoup là-dessus, parce qu'on voulait à la fois des éléments de décor qui puissent représenter ou l'appartement de Noé et Alix, ou l'hôpital, le bureau des différents professeurs, parce que Noé, en fait, est pris entre une guerre, entre deux professeurs, un très rationnel et un qui l'est un peu moins. Donc on a des éléments de décor qui, selon leur position, leur éclairage, peuvent symboliser différents espaces. Et on avait aussi envie, avec Caroline, de travailler sur les espaces de circulation, puisque c'est un spectacle qui est entre la science et la spiritualité, entre une histoire d'amour et une histoire professionnelle, et que tout se mélange peu à peu. On voulait travailler sur comment les comédiens passaient d'un espace à l'autre. Donc ça circule beaucoup, il y a beaucoup de déplacements.
Quatre comédiens, c'est bien en tout cas.
Oui.
Ça change hein, beaucoup de seul en scène pour des raisons financières sur le festival.
Oui.
Ou deux personnes. Là, quatre, on commence à avoir un spectacle nourrissant, quoi, avec beaucoup plus de choses qui bougent et tout ça.
Mais sur les deux précédents spectacles, c'était déjà le cas. Il y avait cinq comédiens sur scène. Moi, j'adore les comédiens et j'adore pouvoir les faire bouger. Et quand on a la chance de pouvoir effectivement produire un spectacle avec plus de comédiens, c'est sûr que c'est une grande chance pour la mise en scène.
C'est vous qui avez écrit, hein, Violaine.
Oui, tout à
c'est
fait.
Vous qui avez mis en scène.
Oui.
Et les chorégraphies, non, hein.
Non, c'est Olivier Bénard. Je ne suis pas du tout danseuse ni comédienne.
Ni danseuse ni comédienne.
Si, je suis comédienne, mais je ne suis pas du tout chorégraphe. Pardon.
Chorégraphe. Vous êtes basée sur des faits scientifiques. Vous avez, j'imagine, épluché pas mal de bouquins, de reportages.
Oui, exactement. J'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup visionné de choses. Et plus j'avançais, et plus je me rendais compte qu'il y avait des choses qui allaient plus loin que ce que je pensais. Et je me suis dit, mais les gens ne le savent pas, ça peut être intéressant qu'ils se posent des questions. Et donc les questions que j'ai trouvées dans les livres, j'ai eu envie de les mettre sur scène, toujours en restant dans l'histoire. Peut-être aussi que ce qui m'a interpellée, c'est la différence qu'on peut faire entre notre conception occidentale de la science, de la médecine, de la vie, de la mort, et puis ce qu'on peut trouver dans d'autres parties du globe où... les choses sont différentes. Ici, nous, on ne parle jamais de la mort. On fait comme si on n'allait pas mourir. C'est tabou. D'ailleurs, personne ne vient en disant « Bonjour, j'ai fait un spectacle sur la mort. » Sinon, il n'y aurait pas de spectateurs dans la salle. Dans d'autres pays, on célèbre la mort. Le jour des morts peut être une fête. On peut accompagner les gens de l'autre côté de façon différente. Et je trouvais ça intéressant aussi de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs.
Oui, puis on le voit même en termes de médecine. On s'intéresse beaucoup aux symptômes. Chez nous, on n'est pas dans l'holistique des Indiens ou même des Chinois qui anticipent le traitement.
Voire même, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a certaines tribus, je crois que c'est des Kanaks ou des... Oui, des Kanaks. Non, pardon, des Maoris, qui, quand quelqu'un de la tribu tombe malade, se réunissent tous ensemble pour se dire « Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait pour que cette personne de notre tribu tombe malade ?» S'ils s'interrogent vraiment sur les causes collectives de la maladie. Nous, comme vous le disiez très bien, on traite le symptôme.
Ah oui, j'ai mal à la tête, je prends un cachet.
Voilà, c'est ça. Donc c'est deux conceptions très différentes.
Derrière, ce que ça peut cacher ou d'où ça peut venir. Les passagers de l'aube, c'est au théâtre de la Luna.
Oui.
Qu'on salue d'ailleurs. Hein,
oui, un théâtre magnifique.
Un festival un peu compliqué cette année, puisqu'ils ont perdu quelqu'un de très important, Stéphane. C'est à quelle heure?
C'est à 13h10.
13h10, tous les jours.
Jusqu'à dimanche. Voilà. Et je voudrais dire aussi que c'est un spectacle avec lequel on a eu l'énorme chance de recevoir le soutien de l'ADAMI, de la Spedidam, du fonds SACD Avignon AF Théâtre, du fonds de soutien du HOF, du théâtre de la ville de Montrouge, pardon, des théâtres de Saint-Malo et du théâtre de la Luna qui nous accueille en résidence depuis la, notre président. Notre
vous avez préparé
création.
Ici en résidence donc oui, le
oui,
spectacle.
Oui. Oui, on était d'abord en résidence au théâtre de Saint-Malo et puis au mois de juin, on était en résidence au théâtre de la Luna puisqu'on a c'est un théâtre qui vraiment soutient notre travail de création depuis le début.
Bien. Bah, rendez-vous à 13h15.
13h10.
13h10 pour les passagers de l'aube au théâtre de la Luna, Avignon. Merci beaucoup.
Merci à vous.